Bonsoir, je suis Damien, vous écoutez L'œil carnivore sur le 105 de Radio Panique, 105.4 de Radio Panique, et je suis en compagnie de Steve Fabry. Bonsoir Steve.
Bonsoir.
Et ce soir, Steve vient nous parler du Night Stalker et de son univers, c'est-à-dire le jeu de rôle, la musique et le cinéma, même le film qui va bientôt sortir, c'est ça que tu es en préparation. Donc on a plein de choses à aborder, puis aussi on va aborder aussi un peu ton travail, comment tu arrives à faire tout ça derrière, parce que mine de rien, ça demande du boulot et de l'engagement et de l'abnégation.
Moi, je n'ai aucun mérite. L'abnégation, ça vient de ma femme, tu vois.
Qui accepte que tu passes autant de temps, c'est ça ? Ouais, bah oui, j'imagine. Il faut savoir aussi que tu étais déjà venu dans l'émission. Alors, je ne sais plus exactement laquelle, j'avoue.
Je ne sais plus dire, mais on était à trois, je pense. Il y avait Yannick, mon batteur, qui était venu avec moi. Tu étais là, tu avais un chroniqueur cinéma avec qui on avait parlé du film, et il y avait quelqu'un d'autre avec toi, mais j'ai oublié le nom.
Oui, je me demande si ce n'était pas Corentin qui était avec nous. J'avoue que je ne sais plus, mais en tout cas, tu étais déjà venu. Alors, vous cherchez sur le site de L'œil carnivore podcast et Night Stalker, vous arriverez à le trouver, je pense. Je suis en train de chercher ça, justement. Mais ah bah voilà, c'était l'épisode 84. Voilà, exactement. Et on avait même parlé du film The Lighthouse. Est-ce que tu l'as vu depuis, toi ?
Oui, je l'ai vu.
Ouais, et il est bien, hein. Mine de rien.
J'ai bien aimé aussi le court-métrage duquel il est tiré. Parce qu'à la base, c'était un court-métrage qui a été adapté en long-métrage et je le trouvais vraiment cool.
Ah, j'ai pas vu le long-métrage. Je ne savais pas qu'il y avait un court-métrage à la base. Donc...
T'en as beaucoup hein, actuellement où les réalisateurs d'horreur généralement font un premier court et puis après ils ont la possibilité de le faire en long.
Quoi. Ouais, tout à fait. Par contre, j'ai été moins convaincu par son dernier film. Je sais pas si tu l'as vu, qui se passe à l'époque des Vikings, etc. Alors là, tout d'un coup, je suis en train de parler d'un truc dont je n'ai plus du tout la référence, qu'il ne faut absolument pas faire, évidemment. Alors, c'est Robert Eggers. Et Robert Eggers qui a fait dernièrement un autre film qui est The Northman. Je ne sais pas si tu es tombé dessus.
Non, par contre, j'ai adoré le fait qu'ils aient foiré toute la com au niveau du titre du film. Si tu te rappelles, les premières affiches du film, il n'y avait même pas le titre du film dessus.
Ah non. voilà. Et donc, ils ont fait les affiches sans le titre et donc personne ne savait quel était ce film, en fait, c'est ça.
Voilà. Si je dis pas de conneries, tu avais Nicole Kidman qui joue dedans et en fait, il y avait une affiche où tu la voyais en peinture, en peinture de guerre viking et tu n'avais rien. Tu avais juste, bam, c'était là, quoi.
Ouais, alors, tu peux le faire quand tu as un gros réalisateur et que tout le monde attend ton truc et donc tu vas avoir le nom partout. C'est plus compliqué quand tu as un film qui, justement, doit se faire connaître, même avec une star comme Nicole Kidman.
Surtout qu'à notre époque, tu as quand même pas mal de trucs sur les Vikings. Donc, on va dire que c'est un peu dangereux. Quoi.
Voilà. Et donc là, maintenant, tu reviens dans l'œil carnivore. Merci à toi.
Merci à toi pour l'accueil. C'est super chouette. Les gars, je vous remercie. Enfin, je remercie cette émission qui est juste incroyable.
Eh bien, merci Steve, merci. D'ailleurs, on a fêté les 10 ans et les 100 émissions le mois dernier. On a fait une émission spéciale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous...
Tu as une palette d'invités en plus.
Alors, c'est même plus qu'une palette d'invités, c'est tous les chroniqueurs qui sont venus à travers les 10 ans qui sont revenus pour cette émission. Alors, tous n'étaient pas là, mais une bonne partie, et c'était très chouette de les revoir. Et on leur a fait faire un petit jeu culture geek, on va dire ça au sens large du terme, sur les 10 dernières années. C'était le principe et c'était assez chouette. On s'est bien amusé. Et je remercie d'ailleurs Katz Créa et The Jortex. Leur follow, voilà. Je suppose que tu les connais, ils doivent venir de toi, je suppose.
Alors, je me permets les présentations. Katz Créa est la femme la plus merveilleuse du monde, c'est-à-dire c'est la mienne. Hein. Tous ceux qui osent dire le contraire et que c'est la leur, on sait tous qu'ils mentent. Et The Jortex, c'est un des acteurs du film, d'ailleurs, du deuxième film. Et surtout, The Jortex, je l'ai connu quand j'étais adolescent, j'ai fait mes secondaires avec lui. Et incroyable que notre amitié ait duré aussi longtemps. Il est actuellement dans une pièce de théâtre, j'ai oublié le nom, Pierre-Yves, mais n'hésite pas à le mettre en commentaire. Hein.
Il est oui, mets-le en commentaire et on... et on citera la pièce, parce que c'est effectivement, c'est toujours important d'aller voir du spectacle vivant. C'est très, très important. Surtout après Covid.
Pour relancer un peu tout ça, ouais, parce que c'est quand même la galère, hein, les amis. Hein. Mais voilà, salut Jortet. J'espère que tu vas bien.
Et donc, tu viens nous parler ce soir, notamment de Night Stalker, qui revient en campagne de jeu de rôle, donc en scénario de jeu de rôle. On expliquera un petit peu ce que c'est le jeu de rôle pour les auditeurs qui nous écoutent, mais surtout, on reviendra sur le jeu de rôle lui-même, ce que ça apporte, ce que cette campagne apporte au jeu de rôle lui-même. Et puis derrière, on va parler aussi musique, puisque tu as sorti, alors si je ne me gourre pas, hein, un album en 2022.
Un en 2020, un en 2021. Malheureusement, 2022, c'est la première année où je ne sors pas de musique. C'est la débâcle.
D'accord, donc je me suis gouré, mais ce n'est pas grave. Donc, en gros, tu as sorti des albums. Alors, moi, je t'avais reçu à l'époque, tu étais dans le groupe, je suppose qu'il existe encore d'ailleurs.
Circati,
c'est ça. Mais qui était plus du métal, on va dire.
Ouais.
C'est ça. Alors que là, tu as sorti deux albums, mais où c'est plus du rétro-wave, c'est ça?
Totalement, totalement. Disons que je suis... Tu vois, on est toujours autour du cinéma, d'une certaine façon, avec moi. Alors, vu que je suis fan de John Carpenter, pendant le confinement, bah, j'ai revu les films de John Carpenter. Il faut bien t'occuper, hein, et voilà, hein, ne me jugez pas. Et j'ai regardé notamment Assaut sur le Central 13, qui est un de mes films préférés de Carpenter, juste pour la ligne de basse de le... Enfin, cette ligne est... Oh ! Et je me suis dit, tiens, je ferais bien un album hommage à Carpenter en réutilisant un peu les synthés, faisant ce genre de choses. Et d'un morceau, je suis passé à 10, et de 10 morceaux, j'ai trouvé un label sans vraiment le vouloir. Enfin, tu vois, ça arrivait vraiment en aiguille. Le directeur de label m'a dit « Ok, ben on le sort tout de suite ». Et chose incroyable, en tant que musicien, j'ai touché des droits d'auteur avec cet album-là. Ah ouais, tu peux faire cette tête-là parce que...
Ah ben, c'est pas si simple à l'heure actuelle de toucher des droits d'auteur sur un enregistrement, c'est pas simple.
Ah, j'ai fait un malaise, hein. Je te jure, il m'a renvoyé un message, ouais, t'as des droits d'auteur, quoi ? Pardon ? Non, tu dois te tromper, c'est pas à moi. Et je me suis vraiment bien plu à faire ça, et du coup, en 2021, j'ai rempilé avec un nouvel album, et je m'éclate vraiment là-dedans, la rétro-wave, c'est vraiment, enfin, il y a un côté kiffant, tu vois, c'est... Putain, tu rebranches des vieilles machines, ça fait de la poussière partout, ta femme a envie de te tuer tellement tu mets des câbles et des synthés partout, enfin, voilà, quoi.
Et bien justement, si vous aimez bien Carpenter, il y a la bande de Capture Mag. Est-ce que tu connais Capture Mag ?
Absolument pas.
Et bien Capture Mag, c'est une bande de journalistes. Donc ce qui est génial avec eux, c'est que c'est des vieux journalistes, bah vieux, entre guillemets, ils sont pas si vieux que ça, ils ont mon âge, mais, des journalistes qui ont, contrairement à la plupart des youtubeurs comme moi, qui parlent cinéma ou musique, etc., eux, ils ont réellement interviewé Carpenter, justement, ou tel ou tel réalisateur. Là, ils ont fait une spéciale Sam Raimi ou des choses dans ce genre-là. Et l'avantage, c'est qu'ils ont travaillé dans Mad Movie et autres. Donc, c'est des journalistes qui ont eu accès direct, en fait, au plateau, aux réalisateurs, aux acteurs, etc. Et c'est génial de les entendre parler, justement, sur un réalisateur. Et ils ont fait une spéciale Carpenter. Alors, je vous mets à l'écran... Alors, je vous mets à l'écran le site de Capture Mag. Et dessus, vous avez notamment donc le podcast de Capture Mag. Et si vous cherchez bien, vous trouverez les spéciales des différents réalisateurs. Alors, évidemment, là, je ne trouve pas l'article en question, mais c'est voilà, Capture Mag, le podcast. Je pense que ça doit être là-dessus. Si on prend ça, bon, c'est pas grave. Et c'est le temps que le site réagisse. Voilà, c'est ça. Et vous avez des spéciales. Alors là, ils ont leur dernière, c'est sur Sam Raimi. Mais ils ont fait sur John Carpenter, il y a 1, 2, 3, 4 parties. Sachant que chaque partie fait à peu près 3 heures. C'est passionnant. Donc allez-y, c'est du bon. Il n'y a pas de... Voilà, Capture Mag, je peux vous mettre le lien dans le chat. C'est vraiment du bon à écouter, vous apprenez plein de choses. Moi, franchement, j'ai redécouvert les films de Carpenter avec, j'ai redécouvert les films de Sam Raimi avec eux, c'est génial. On n'est pas forcément d'accord toujours avec leurs critiques, mais au moins, on apprend plein de choses et c'est génial. Et donc, tu nous as fait de la musique et tu nous sors aussi un film prochainement, c'est ça ?
Ouais. On a décidé. On avait fait un premier film, c'était en 2018. Et ben, on en avait parlé d'ailleurs quand j'étais venu la dernière fois. Le premier était un fan footage parce que pas de budget, pas d'idée. Enfin, tu vois, allez, zoom, YOLO, aucune autorisation, donc voilà. Et par contre, pour le deuxième, il y a entre les coups, il y a un homme très grand qui nous a quittés. Et je voulais un peu lui rendre hommage d'une certaine manière. C'est Pierre Belmar. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais il a une de ces voix de narrateur, ce mec, mais c'est hallucinant. Et il faisait une émission que j'adorais, que j'écoutais souvent pour m'endormir, c'était Les Enquêtes Impossibles. Et j'adorais vraiment ce principe-là, et du coup, on a fait un faux documentaire. On est reparti sur est-ce que le Night Stalker existe, oui ou non. Et donc, c'est des mini-interviews à chaque fois avec un narrateur qui fait le lien, et on a des... Évidemment, c'est des faux historiens, hein, mais là, on est quand même dans la diégèse de l'histoire, donc on a interrogé des historiens, des psychologues, des pseudo-témoins, des témoins, enfin tu vois ce genre de choses-là. On a retrouvé, on a eu une amie qui travaille dans la police, qui nous a enregistré une vraie conversation de police, donc avec tous les bruits de radio et toute la clique, j'ai même pas dû refaire l'habillage moi-même, sur le fait que quelqu'un s'était fait agresser et que quelqu'un l'aurait sauvé, 1m80, avec un imper, visage dissimulé par une capuche. Et du coup, c'est vraiment chouette d'avoir tout le monde qui s'est mis dedans, et surtout The Jortex, en l'occurrence, Pierre-Yves, je te salue pour ça. Il a fait le youtubeur complotiste, et il l'a fait, mais comme personne. Il m'a tué. D'ailleurs, j'ai toujours tous les rushs, parce qu'il est complètement parti en vrille. Il est même tombé de sa chaise un moment.
D'accord, tu vas nous en parler concrètement, mais je propose qu'on commence par le début, en tout cas le pourquoi t'es venu ce soir, parce que moi j'ai reçu un mail de ta part avec le communiqué de presse sur la nouvelle campagne de Night Stalker des le jeu de rôle. Voilà. Alors la campagne s'appelle Premier pas dans les ténèbres, c'est ça.
Totalement,
totalement. D'ailleurs, il y a marqué suivi de les Néphilim. tu m'expliques.
Alors, je t'avoue que bon, mon éditeur est un mec incroyable, exceptionnel, Michel, je te salue d'ailleurs. Et quand on a commencé à travailler sur la campagne tous les deux, on a fait tout le playtest. Et à un moment, il y a le groupe de joueurs, le groupe de playtest, qui ont commencé à me poser des questions sur les Néphilim. Hein, donc, c'est les bâtards entre les anges et les humains, ou démons et humains, enfin voilà. Et ils ont commencé à me poser des questions, et à un moment, je me suis dit, les gars, vous commencez un petit peu à me taper sur les nerfs, je vais faire un scénario où il y a toutes les réponses à toutes vos questions. Voilà, comme ça, voilà, c'était arrangé, c'était fait. Je le fais jouer, et là, mon éditeur m'a dit après la partie, ah non, il faut le mettre dans la campagne, hein, celui-là. Oui, mais ben, on n'est pas obligé. Non, tu te débrouilles, on le met dans la campagne, il est bien. Et on va faire tout un supplément autour, il faut que tu écrives une nouvelle là-dessus. Oui. Et du coup, je m'y suis mis et c'était vraiment, vraiment plaisant parce qu'on a approfondi vraiment certains personnages de la campagne dans cette extension-là, quoi. Et c'était vraiment, vraiment chouette, vraiment plaisant, quoi.
D'accord. Alors, première question, le jeu de rôle The Night Stalker, ça fait combien de temps qu'il est sorti ? Parce que ça fait un petit moment déjà. On est,
deux ans, je crois.
Deux ans, c'est ça. Il est sorti aux éditions... Alors, je sais
Stella Maris.
Stella Maris. C'est quel type de jeu de rôle ? C'est un jeu de rôle plutôt narratif ? Est-ce que les règles sont très complexes ou,
On est dans un truc hyper simple. C'est du narratif à crever. Donc, le but, c'est vraiment de raconter une histoire. Et particulièrement, moi, j'avais envie de mettre des enjeux importants. Enfin, il n'y a pas... Comment dire ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin, tu vois. C'est toujours des dilemmes. Enfin, je mets les joueurs face à des choix moraux et le principe du jeu, c'est sur le fût. Donc, tu poses une question fermée. Est-ce que je réussis telle ou telle action ? On lance un D6. Le 6, c'est oui et, donc réussite critique. Hein. Le 5, c'est oui, tu réussis. Le 4, c'est oui, mais il se passe quelque chose de négatif. Le 3, c'est non, tu ne réussis pas, mais il se passe quelque chose de positif. Le 2, c'est non. Et le 1, c'est non, et il se passe quelque chose d'encore plus négatif. Donc, tu vois, on est vraiment parti sur un truc mais hyper simple, direct. Et tu lances plus ou moins dés en bonus ou en malus en fonction de tes compétences, des caractéristiques de ton personnage. Mais on est vraiment parti sur un truc très simple qui se lit très vite. Généralement, quand je suis en convention, il me faut 5 minutes pour expliquer les règles et après, ça roule, quoi.
D'accord, bah ça c'est plutôt chouette. Alors pour nos auditeurs qui connaissent pas le jeu de rôle, le jeu de rôle c'est très simple, c'est différentes personnes qui se retrouvent autour d'une table, on va dire de manière traditionnelle, et chacun joue un personnage, il incarne un personnage, et il y a un des joueurs qui est un peu spécial puisque c'est le maître de jeu. Et c'est lui qui quelque part dessine le monde pour les joueurs et va faire ce qu'on appelle les personnages non joueurs, qui vont interagir avec les joueurs. Le maître de jeu aussi, c'est celui qui tient
la cohérence du monde.
Oui, la cohérence du monde et qui tient aussi le fil de l'histoire. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a quand même une histoire, parce que sinon, on pourrait partir dans tous les sens. D'ailleurs, des fois, certaines parties de jeu de rôle peuvent partir un peu en live. Mais de manière générale, l'idée, c'est de raconter une histoire tous ensemble. Et chose particulière au jeu de rôle, c'est que... en tout cas, dans la majeure partie des jeux de rôle, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. On est gagnant si on a raconté une bonne histoire et on est perdant si tout le monde s'est embêté autour de la table, en gros.
Oui. C'est bien résumé. T'as vraiment...
Et le jeu de rôle, c'est génial parce que il suffit juste d'avoir un crayon, un bout de papier, des dés, et ça y est, c'est parti. On peut imaginer ensemble. C'est très bien pour les enfants. Si jamais vous avez des enfants, n'hésitez pas à les initier au jeu de rôle ou en tout cas n'ayez pas peur. c'est créateur d'imagination et c'est vraiment très très bien et ça permet de créer ensemble des histoires. Donc moi, je le conseille pour les enfants, en tout cas, c'est génial. Et évidemment, pour les adultes, moi, je continue à en faire et j'espère que j'en ferai en maison de retraite. Ça permet de vivre des films, des bouquins et autre chose, mais avec d'autres. Donc, c'est génial.
C'est surtout un vecteur social incroyable. J'ai rencontré des gens en convention en jouant au jeu de rôle. C'était juste le sommet. Et je me rappelle dans un groupe à Trolls et Légendes, j'avais fait jouer, et je les voyais mais ils m'ont fait le coup, tu vois, tu commences à décrire, et oui, là, vous avez une route avec des pavés qui ressortent à gauche et à droite, on fouille tous les pavés. Ok. Vous rentrez dans une pièce, il y a une gaine de ventilation qui ne tient pas bien, on la fouille. Et normalement, tu vois, la partie devait durer 2 heures, avec eux, ça a duré 2h58, et j'avais l'impression qu'ils sont emmerdés tout du long, tu vois, tellement... dès qu'il trouvait un truc, il devait aller dedans. Et puis à la fin, c'était la meilleure partie qu'on ait faite. Et c'est là que tu vois que tu ne vis pas de la même façon, tu vois.
Alors, tout à fait. Pour moi, j'ai tendance à dire que le jeu de rôle, c'est comme la danse. Y a des gens avec qui ça va marcher. Et tu peux danser la valse, tu peux danser n'importe quelle danse et c'est chouette et il y a une vraie dynamique. Et d'autres, avec d'autres, tu vas tout le temps te marcher sur les pieds et ça ne va pas fonctionner. Pour moi, le jeu de rôle, c'est la même chose. Il faut trouver un groupe avec qui ça valse, on va dire ça.
Oui, complètement, complètement. Et surtout, trouver un groupe où on ne se bat pas contre le jeu. J'ai eu des mauvaises expériences où tu as des gens qui, leur plaisir, c'est de se battre contre le maître de jeu et contre le... Tu vois ce que je veux dire, l'univers en lui-même, et là, c'est pas possible, quoi.
Là, on fait pas une émission spéciale jeu de rôle, même si un de ces quatre, on pourrait le faire. Mais effectivement, après, c'est compliqué. On a tous connu des joueurs qui, leur but, c'est de voler les autres joueurs ou de les tuer ou de faire tel ou tel truc qui peut s'apparenter finalement à de l'anti-jeu. Et là, c'est compliqué parce que soit le maître de jeu met le holà assez vite. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans ces cas-là. C'est je dis, je prends le joueur à part. Je dis, attends, on est là pour tous jouer ensemble. On n'est pas. C'est pour ça que moi, généralement, au début, d'ailleurs, je définis très les règles humaines dans lesquelles on évolue. Pas les règles du jeu, mais les règles humaines. Pour que tout le monde, pour que ça soit chouette pour tout le monde. Ça, c'est une évolution que j'ai eue ces dernières années. Je fais attention à la place de chacun. hommes et femmes, pour que chacun se sente à l'aise, parce que c'est important que tout le monde se sente à l'aise autour d'une table. Alors ça paraît évident comme ça, mais en fait, comme on joue justement dans des imaginaires et qu'on peut faire des choses plus ou moins réalistes, c'est important que tout le monde se sente à l'aise avec les thèmes abordés et avec ce que font les autres joueurs, etc. Que, à la limite, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire tout de suite, etc. Bah voilà, c'est très très important, chose que je ne faisais pas quand j'étais jeune et que maintenant je fais de manière à ce que tout le monde se sente bien à l'aise autour de la table et qu'il n'y ait pas de problème.
Ça devient limite obligatoire, hein, parce qu'il y a certains... Enfin, nous, par exemple, dans The Night Stalker RPG, les thèmes sont très durs. Et je mets toujours une indication dans le synopsis du scénario pour que le maître de jeu puisse savoir tout de suite de quoi il retourne et prévenir les joueurs. Voilà, il risque d'avoir tel ou tel genre de thème. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Pendant l'essai de la campagne, je me souviens avoir choqué sans le vouloir un joueur. Et je l'ai vraiment senti mal et je me suis dit, bon, bah, ok, on va mettre le holà à cet endroit-là. Mais bon, tout dépend du jeu auquel tu joues aussi. Tu joues à Alien, tu te rends bien compte que ça va être un peu... voilà quoi. Hein.
Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, je pense qu'il doit y avoir quand même des choses un peu secrètes et que les joueurs ne doivent pas savoir, mais quand on joue à Night Stalker, on joue à quoi?
Alors, c'est un jeu où on va aller un peu chercher le... Déjà, c'est un monde vraiment très très sombre. Donc, j'ai souvent les joueurs qui, à la fin des parties, sont déprimés parce que bah, il y a toujours ce côté où l'univers est très lourd, très pesant, mais bon, c'est l'univers qui est décrit comme ça. Et c'est l'avantage avec la campagne, quand on fait des scénarios, il y a ce côté où ils ont l'impression de se battre comme ils peuvent pour s'en sortir, mais la noirceur revient toujours. Et la campagne, quand on a eu fini, ils ont vraiment eu la sensation d'avoir influé sur l'univers, tu vois, d'avoir apporté leur brique dans cet univers glauque et d'avoir fait quelque chose de vrai et qui avait un sens. Et même si les scénarios, il y a toujours un sens derrière, hein, c'est pas ça que je dis. Mon Dieu, je suis en train de dénigrer tout seul, c'est incroyable.
Non, mais c'est important, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de jeux comme ça où, à la limite, les joueurs n'ont pas spécialement l'impression de pouvoir influencer sur le monde. Donc là, d'après ce que tu dis, en gros, l'idée est de résoudre des problèmes, c'est ça, du monde.
Oui. Ben, à la base, ils sont plus des enquêteurs qui, un peu à l'appel de Cthulhu, tu vois, qui ont à chaque fois une mission, ce genre de choses-là. C'est plus un jeu à mission, hein. Donc pour faire des one-shots, c'est parfait. Mais la campagne, là, j'ai décidé de partir un peu dans les thèmes lovecraftiens, évidemment. Hein. Mais on part sur des humains qui vont découvrir l'envers du décor, qui vont découvrir qu'il y a des anges et des démons sur Terre. Et finalement, ils vont devoir trouver leur place. Et on questionne par rapport au fait de est-ce que tu peux nier certaines choses pour essayer de revenir à ton ancienne vie tout en sachant qu'elles sont là. Et quoi que tu fasses, elles seront toujours là. Enfin, tu vois, une fois que tu sais ce qui se cache dans les ténèbres, est-ce que tu sais faire marche arrière? Enfin, on met beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis vraiment lâché au niveau des interrogations par rapport à l'humanité, par rapport au final à les humains ne sont qu'une toute petite fraction de ce combat, tu vois. Enfin, chaque vie humaine est-elle vraiment importante dans le combat? Et surtout là où dans le livre de base on n'a pas pu le faire, les joueurs croisent le Night Stalker et tous ses compagnons, et ça c'est vraiment chouette. Ça, je te jure que ça a été une satisfaction dans la campagne quand j'ai vu les joueurs visage illuminé qui me disaient ah, oh, putain, c'est lui, ah, on va lui parler, c'est incroyable. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était des moments où j'ai rêvé toute ma vie ça et c'était vraiment cool. Quoi.
Bon, bah, chouette. Ça me fait penser, parce que tu parles de Lovecraft, évidemment, c'est une influence qu'on voit ressurgir de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps, mais qui a tout le XXe siècle a été, en tout cas l'imaginaire fantastique du XXe siècle a été irrigué par Lovecraft, soit par ses écrits, soit même parce qu'il a correspondu avec beaucoup d'auteurs de son époque. Et donc il y a plein de choses, en fait, on ne se rend pas compte, mais qu'il a aidé certains auteurs à accoucher de leurs propres écrits. À l'heure actuelle, je suis en train de lire, c'est parce que Cthulhu est enquête, je suis en train de lire un bouquin de James Lovegrove qui est justement, qui imagine que Sherlock Holmes a découvert en fait l'envers du décor, a découvert
les
grands anciens, etc. Et c'est toujours Watson qui raconte l'histoire, etc. Et c'est comme des livres apocryphes qu'on aurait découvert après. et toujours raconté par Watson et qui raconte comment leurs différentes enquêtes en rapport avec le mythe et qui sont restées cachées évidemment parce qu'il fallait pas que le monde sache, mais voilà. Donc il y a un petit côté comme ça, voilà. Alors cette campagne, on peut la retrouver donc, on peut l'acheter où et comment?
Alors, elle est disponible à la FNAC, sur le site de mon éditeur, bientôt sur Amazon et normalement bientôt également chez Flibert. La campagne, elle fait, si je ne dis pas de bêtises, 174 pages. Je regarde dans le bouquin hein, au cas où. Je vous le montre ici, si vous voulez le voir. Il est beau.
Alors, attends, je suis en train de montrer. Attends, je te passe en grand. Voilà, vas-y.
Regardez ça, comme c'est beau, comme c'est trop beau. Et en plus, l'arrière. L'arrière, vous trichez un petit peu, vous avez l'illustration juste derrière la mienne. Et à l'intérieur, il y a une palette d'illustrations, c'est vraiment pris la tête pour illustrer quasiment tout. Il y a quasiment une illustration par page en moyenne, tu en as certaines ou tu n'en auras pas. Hein. Mais voilà, on a fait vraiment des aides de jeu, je me suis même cassé la tête à refaire les fenêtres des langages de SMS, enfin tu vois, des envois de SMS de téléphone. Enfin, bref, je me suis vraiment pris la tête, les gars, hein, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Et là où ça fait fort, s'il vous plaît, les amis, au début du livre, vous avez un QR code là qui mène à une bande originale qui a été faite exprès pour le jeu de rôle, pour appuyer pour le maître de jeu. Donc, les titres sont les phases de jeu. Et on a mis phase au sens large, c'est-à-dire il y a un thème musical pour les combats, il y a un thème musical pour la recherche, il y a un thème musical pour souffler, il y a un thème musical pour les moments de tension. Bref, j'ai vraiment fait par thème important.
Wow. Enfin, à la même manière qu'un jeu vidéo.
Oui, mais vraiment pour que le MJ, tu vois, ait l'outil directement, tu vois, qu'il ne se casse pas la tête juste à lire le titre, il peut retrouver. Il y a 10 titres, chaque titre fait entre 15 et 30 minutes, histoire vraiment, tu vois, de pouvoir se poser, de pouvoir utiliser et que ça ne boucle pas, tu vois, parce que ça, c'est un truc que j'aime pas, c'est quand les trucs bouclent trop vite. Et voilà. Ça a été un boulot de dingue, hein, je t'explique.
Mais j'imagine. Mais alors, moi, là, en entendant ça, parce que c'est vrai que ça demande un boulot de dingue, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu des droits d'auteur pour ta musique, mais là, est-ce que c'est de la pure... c'est du pur fun pour toi ou tu gagnes un minimum d'argent dessus? Je suppose que rentrer dans les frais au niveau temps, c'est même pas la peine d'y penser.
J'ai un bon éditeur, je dois avouer que j'ai un super éditeur pour ça, donc voilà, à ce niveau-là, ben, ça fait une rentrée d'argent, hein, je suis très content, et sinon, oui, je vais jusqu'au boutisme parce que je peux le faire. Enfin, tu vois, par exemple, les illustrations, je ne suis absolument pas graphiste ou quoi que ce soit, j'avais envie d'essayer, et là, j'ai peur de lancer les débats, hein, mais j'ai utilisé une intelligence artificielle pour tester, j'avais envie de tester. Et je me suis dit, voilà, et ça a donné le rendu que vous avez derrière, enfin, qui est juste derrière toi. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. J'avais vraiment envie d'essayer. C'est un peu le débat chaud du moment. Mm-hmm. Mais sans, comment dire, j'ai pu faire tout ça, tout seul, entre guillemets. Hein, mais j'ai eu un éditeur incroyable. Michel a fait un travail de fou sur la mise en page et sur tout ce qui était correction, suivi. Là, ma belle maman est une déesse de la correction également. Si jamais je le nomme, j'ai pas eu le temps de la nommer hier, enfin, la nommer dans l'émission télé, donc je le fais maintenant. Annie Quilquet est super géniale. Donc, ma belle maman, je vous salue. Et c'est juste que si on peut le faire, autant le faire. Enfin, tu vois, si jamais je dois attendre de dépendre de quelqu'un, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie d'essayer tout moi-même. C'est un peu narcissique, peut-être, mais c'est pas le but. C'est vraiment être autonome plutôt, tu vois, que...
Mais c'est vrai qu'en tant que maître de jeu, toutes les IA du type Midjourney, Dali et autres, c'est génial parce que tu as besoin de pouvoir illustrer telle ou telle scène, quand t'es pas trop trop regardant quand même, soyons bien clairs, sur les détails. Voilà, soyons bien clairs. À ce moment-là, tu peux y aller parce que tu peux vraiment faire des choses chouettes avec. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de ces IA, c'est que des fois, je prenais comme exemple quelqu'un qui veut faire un livre sur le jardinage. Avec les IA, il peut très bien ne pas avoir besoin de payer un photographe et demander à Midjourney de lui sortir une image de machin, une image de bidule, une image de truc, et hop, il met les articles en dessous. À la limite, il demande à ChatGPT de faire les articles et il sort les trucs. Bon, ChatGPT, ça pose d'autres problèmes, c'est qu'il répond ce que tu as envie d'entendre, donc pas forcément la réalité, donc ça peut poser plein de soucis. Faites attention, hein, voilà. ChatGPT, encore un autre problème. Mais c'est vrai que bon, l'intelligence artificielle, pour certains trucs, c'est super pratique. Pour moi, c'est un super support pour les créatifs.
Ça évite de passer par trop d'intermédiaires à un moment Je pense que, voilà, ici, on le fait sans financement, tu vois. Enfin, il y a aussi... Voilà, c'est moche à dire, hein, je suis d'accord, mais c'est le côté pécunier qui va parler. Mais il y a toujours un moment où, voilà, au niveau des finances, j'ai pas beaucoup de finances derrière, tu vois. Et voilà,
c'est vrai. Moi, j'ai un copain qui bossait, qui a fait quelques élus de jeux de rôle, et c'est vrai que d'un, ça paye pas des masses. Deux, évidemment, par la force des choses, il n'y met pas forcément. Il peut pas passer trop de temps sur chaque élu, à moins que tu fasses un Donjon et Dragon. On est d'accord, hein, mais on va dire un jeu de rôle normal édité. Européen édité comme on peut, effectivement, par la force des choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière bénévole sur ce genre de choses, tel truc. Bon, à la limite, en se disant, voilà, ça fait un peu de pub ou ça me permet de bosser à côté ou de faire des choses dans ce genre-là. Donc, après, pour moi, le gros problème de l'IA, c'est qu'on est dans un système capitaliste. Donc, au final, il y a des gens... dans ton cas, de toute façon, tu n'aurais pas pu payer un graphiste. Donc là, ça te permet d'avoir d'avoir quelque part les illustrations que sinon, il ne pourrait pas y avoir dans ton livre. En tout cas, tu n'en aurais pas autant. Tu en aurais quelques-unes, sans doute la couverture, deux, trois trucs comme ça, mais c'est tout. Donc là, ça te permet d'avoir finalement toutes les illustrations que tu voulais pouvoir mettre et pouvoir cristalliser quelque part ton imaginaire.
Clairement, c'était ça le but, hein, tu vois, que ce que j'ai en tête puisse être vu. On est dans cette ère-là et dans ce combat-là. Et je peux comprendre toutes les parties parce que c'est compliqué de se positionner par rapport à ça. Moi, j'ai vu un outil et je m'en suis servi, tu vois. Quand tu vois que tu as des gens qui se font. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où on te montrait un film vu par une intelligence artificielle, mais dans les années 80. Je crois que c'était Le Seigneur des Anneaux que j'ai vu comme ça. Hein. Les dessins étaient magnifiques. Enfin, tu vois, les élus étaient complètement renversants. J'avais vu aussi pour le jeu Bloodborne, vu comme un film des années 80. C'est excellent.
Je crois qu'ils l'ont tous fait. Moi, ce qui m'avait beaucoup fait rigoler, c'est les Simpsons ou South Park, version sitcom des années 80. C'est très, très fort. Très, très drôle.
Mais je trouve que voilà, c'est un outil comme un autre. Enfin, on met bien à disponibilité, que ce soit de la musique libre de droit ou ce genre de choses-là. Je pense que ça a à voir le côté outil, parce que ça ne remplacera jamais un illustrateur. On a... Le comics et le roman ont été illustrés par Anthony Rubier, qui a fait un travail de fou, qui a fait un travail de dingue. Là, il m'avait annoncé qu'il ne savait pas faire un travail de longue haleine, parce qu'il est papa depuis peu de temps, il a des travaux dans sa maison. C'est pour ça que je me suis débrouillé un peu à ma façon, tu vois. Ce mec a réussi à ouvrir mon cerveau, retirer tout ce que j'avais, et a dit, tiens, je vais t'en faire des images, tu vois. Et il a fait ça, et c'est juste... Enfin, Anthony est juste un héros, quoi.
Non, tout à fait. Donc, ok. Donc là, maintenant, on peut le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. En gros, c'est ça. Donc, là, c'est chouette. Voilà. Je propose de faire une petite pause musicale. Hein,
avec grand plaisir.
Avec un de tes morceaux. Alors, je propose ce que tu m'as envoyé qui s'appelle Track 1. Donc, je ne sais même pas le nom du morceau, je ne sais pas le nom de l'album, je ne sais même pas sous quel nom tu signes ça. Donc, si tu peux me le présenter deux secondes.
Alors, je signe ça sous le nom de Niak et Track 1 parce que c'est une exclusivité. C'est la BO du film, en fait. C'est l'introduction du film. Et donc, voilà. C'est beau, hein, ça. Hein,
c'est très bien. Eh bien, on s'écoute. C'était donc Track 1.
Titre encore à venir, mais c'est une exclusivité, c'est pour ça.
Voilà, donc Track 1, donc c'est le morceau du générique donc, film, du deuxième film, Nightstalker. Il s'appelle comment en fait ?
Alors, le premier, c'était The Nightstalker Case Fun Footage, et là, c'est The Nightstalker Case Investigation.
D'accord. Eh bien, chouette. Et quoi, il est prévu pour quand ?
Incessamment sous peu. Je suis toujours dans le travail dessus avec le distributeur pour qu'on voit tout pour le DVD, pour normalement une sortie sur Amazon Prime, si tout va bien, mais avec catalogue USA, comme le premier. Et voilà, donc c'est beaucoup.
Donc
de
pas
boulot,
de chance pour les Belges là qui sont abonnés à Prime de le voir.
Le problème, c'est que de notre côté, j'ai pas eu de réponse des distributeurs de chez nous, tout simplement. Et j'avais demandé à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour voir s'ils étaient intéressés ou pas pour être dedans. Et pas de réponse. Donc,
D'accord. Je réfléchis à toutes comme ça avec les différentes personnes que je connais à droite à gauche, mais j'aurais peut-être hors antenne deux trois personnes de filer deux trois personnes les coordonnées. On ne sait jamais.
ça je veux bien. On s'est inscrit au BIF, tu vois, pour le BIF
ah, oui.
cette année, mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Alors que j'ai vu qu'il y avait la sélection de films qui était apparue et avec le premier film on s'était inscrit, tu vois, et on nous a oubliés. J'ai envoyé un mail, oui, est-ce qu'il y a eu des nouvelles ou pas ? Puis on m'a répondu simplement, j'avais oublié. Ouais.
D'accord. Alors, il faut savoir, parce que ça fait quelques années que je pratique le BIF et je vois un peu l'envers du décor. C'est une machine de guerre, le BIF, avec très peu de personnes. Donc, chaque personne fait beaucoup de choses. Mais pareil, je peux peut-être te donner un contact. Au moins pour être sûr de ne pas être oublié, peut-être, je ne sais pas. Parce que ça serait dommage pour le BIF de ne pas forcément, en tout cas, d'oublier. Je ne sais pas, après, la sélection dépend des films du moment, de ce qui est possible, etc. Il y a plein de facteurs et ça, je ne peux pas, en présager.
Clairement, je crois que la seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'on a beau contacter des médias, enfin tu vois les médias belges, on a vraiment du mal à les atteindre. Enfin tu vois, il y a un côté un peu inaccessible. Et si tu connais pas la bonne personne, ton mail il va tomber malheureusement soit dans les spams, soit dans l'oubli. Et c'est un peu dommage pour quelqu'un. Je sais que je suis personne dans le milieu du cinéma. Hein, tu vois, de notre côté, je sais que je débarque de nulle part, mais je pense que le concept n'est pas mauvais. Enfin à partir du moment où ça marche un peu outre-Atlantique. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher chez nous ? Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu frustrant. C'est
oui, et puis le BIF, à la limite, est parfait pour ce type de film. Donc, mais voilà, hors antenne, je te donnerai deux, trois contacts. On ne sait jamais, ça pourra peut-être servir. Voilà. Et justement, normalement, on a prévu de faire une émission en direct à BIF. Cette année, donc on va voir exactement, on ne sait pas si ça sera en direct pour la radio ou juste en direct pour Twitch, mais en tout cas, on devrait tourner une émission là-bas, peut-être avec toi, tiens, tu as l'occasion.
ce serait cool, tu vois le mec qui passe derrière, coucou.
non, mais franchement, indépendamment de ça, que tu sois sélectionné ou pas, ou etc., je sais d'ailleurs, n'hésite pas, il y a de l'aide à la création, hein. Il y a un concours d'aide à la création au niveau du BIF.
Ah, ça, je ne savais pas. Attends, je vais noter.
Si. D'ailleurs, je peux le dire à tous nos auditeurs. Il suffit d'aller sur le BIF. Alors, ce n'est pas évident à trouver au départ. Donc, l'idée, c'est d'aller vous allez sur le site du BIF et ça s'appelle Pitchbox Session. Et la deadline, c'est jusqu'au 26 du 2. Tu es encore dans les temps.
Il faut savoir que j'ai écrit 4 scénarios en tout. Tu vois, j'ai 4 scénarios d'avance. Et là, à la suite de la fin du 2, on a eu une première critique du deuxième où on a salué mon écriture. Et j'étais vraiment, vraiment très, très content parce que le deuxième, on s'est investi dedans, mais. Le narrateur, par exemple, qui est Roland Martin, qui est incroyable, le père de mon batteur. Et Yannick Martin, son fils, mon batteur, comme ça, je donne les noms et je donne les fonctions. Quand on a fait l'enregistrement de son père, déjà, on a quasiment enregistré 10 heures d'affilée. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir. Moi, derrière la caméra, je n'en pouvais plus, j'étais en PLS. Et lui, non, il faut finir, on va tout faire d'une traite. Toi, t'es... Et son fils était en train de... pas dire corriger son texte, mais réadapter son texte vraiment pour que ça colle parfaitement aux scènes, tu vois, à chaque fois, et vraiment dans l'esprit un peu comme on peut faire des documentaires, un peu, tu vois, quand on parle des anciennes civilisations, un genre de choses-là, où on met vraiment les intervenants les mecs, ça reste des historiens, mais c'est des historiens cool, tu vois, parce que t'as deux, trois effets de caméra. Waouh, c'est Indiana Jones. En fait, non, il reste le cul dans un bureau en train de lire un bouquin. Mais voilà, tu vois, c'est l'idée, quoi. Et c'était vraiment plaisant parce que tout le monde s'est investi et je n'en reviens pas. Et là, bah, y a une troisième équipe qui s'est formée pour le troisième. Donc, normalement, on devrait faire cet été. Et le script.
Eh ben, bah voilà, bah tu peux tester le pitchbox. Vas-y, au moins comme ça, ça te permettra d'avoir un peu de moyens pour continuer le truc.
Voilà. Ouais, totalement.
Voilà, voilà. Donc n'hésite pas. Voilà. Je croise les doigts pour cette année. Donc le film sera disponible. Est-ce qu'il y aura un moyen quand même, tu feras une diffusion, ne serait-ce en une salle, un soir, un truc quelque part, on pourra le voir.
Normalement, on va s'arranger avec une boutique de jeux de société chez qui je fais des sessions de jeux de rôle, pas dire mensuels, mais quasiment mensuels. Qui m'a proposé de projeter le film dans le magasin, de se faire une séance entre nous. Et je pense que ça, ce serait une bonne idée, quoi. J'avais déjà demandé à plusieurs foyers culturels, mais les foyers culturels, ils ont déjà tellement du mal à ramener du monde. Faire un truc qui est un peu underground, enfin, tu vois, ce genre de choses-là, c'est pas facile non plus pour eux, avec ce qui s'est passé pour le Covid. Enfin, tu vois, pour relancer les choses et louer une salle de cinéma, s'il vous plaît, j'ai pas les fonds, hein.
Oui, c'est compliqué. D'ailleurs, j'avais un projet de, mais je sais pas où ça en est, un projet de ciné-club. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que il faut quand même qu'il y ait des gens qui te suivent parce que sinon ça vaut pas le coup. Mais après, il y a des cinémas associatifs, hein, comme le Nova et autres, qui pourraient programmer le film. Hein.
Ça, c'est pas une bête idée. Je suis resté vraiment dans ce qui était autour de moi ou les grosses machines, mais je n'ai pas été voir ailleurs. Tu vois, enfin,
mais regarde, parce que ce soit à Liège ou à Bruxelles ou à Charleroi, il y a des collectifs qui pourraient être intéressés par programmer le...
Du côté de Liège, je crois que c'est les Grignoux, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Là, tu m'en demandes trop. Je sais qu'il y a du monde à Liège, mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Si jamais vous êtes de Liège et que vous savez dans le chat, n'hésitez pas à participer, donner l'info. Allez-y.
Mais ça reste quand même une des expériences incroyables niveau humain, tu vois. J'aime beaucoup parce que ils donnent tous, enfin tous, ils ont donné. On a Fabio et Mel qui sont improvisés acteurs, tu vois, sur le moment même, ils sont crédibles à mort. On a Pierre-Yves qui s'est lancé dans le projet. Pierre-Yves, je lui avais fait un texte, il n'a pas du tout suivi le texte, il est parti complètement en vrille, mais il est meilleur, tu vois, il a été bien meilleur que ce que je pouvais imaginer. Et par contre, on a Pee-wee qui s'est ajouté tout à la fin. Je l'ai fait souffrir, lui, parce qu'en plus, il avait le texte le plus long et j'ai le plus coupé dedans parce que il n'y avait pas besoin de tout ça, finalement. Mais il s'est prêté au jeu à fond. Il y a des gens qui sont venus comme ça. « Ouais, tiens, j'ai envie d'essayer. » Enfin, voilà. Et il y a une ambiance bon enfant, tu vois. Il y a une ambiance vraiment bienveillante au niveau des acteurs. Certes, le film n'est pas du tout bien. Enfin, on est quand même dans... faux documentaire un peu horreur, mais il y a à l'arrière ça s'est vraiment super bien passé. Il y a eu aucun problème. J'ai eu un souci au niveau des rushs, mon disque dur a cramé, j'ai perdu une partie du film et mes potes avaient je leur envoyais au fur et à mesure et ils m'ont tous renvoyé les rushs qu'ils avaient grâce à mes multiples envois et du coup j'ai pu reconstituer le film comme ça.
Waouh, coup de chance parce que là effectivement c'est des coups durs qui peuvent arriver. Ça c'est
J'ai voulu arrêter, et finalement, il y en a un qui m'a dit « Ouais, tiens, j'ai ce bout-là. » On a un autre qui me dit « Ouais, tiens, j'ai ce bout-là. » Et ainsi de suite. Et au final, on a pu reconstituer tout ce que j'avais perdu. Quoi. C'est une chance incroyable, mais aussi parce que mes potes... j'ai des amis incroyables.
Je ne sais pas si tu as quelque chose, un autre projet X ou Y sur lequel tu bosses en ce moment, dont tu voudrais parler ou revenir sur quelque chose.
La suite des romans, évidemment.
Voilà.
On a sorti donc, avec l'éditeur Stella Maris, on a sorti le premier, le deuxième et le troisième tome en un seul tome. Et là, je suis en train de travailler sur le quatrième, le cinquième et le sixième qui vont sortir en une seule pièce également. Je suis à la fin du sixième. Donc, j'avance dedans, bien, tant bien que mal, hein, parce que malheureusement, je suis comme Harry Potter. Tu vois, les premiers tomes étaient relativement petits et gonflés un petit peu. Et là, j'arrive au sixième tome où là, je prends de la place et je t'explique pas le 7e, le 8e et le 9e, ça va être trash. Car oui, il y aura 9 tomes en tout.
C'est, à chaque fois, c'est une année, c'est ça? Non, tu faisais référence à Harry Potter, c'est pour ça.
Normalement, tu vois, à chaque fois, je prenais un an pour l'écrire. Là, j'ai pris plus d'un an parce qu'il y a eu le jeu de rôle, il y a la campagne, il y a eu la musique, il y a eu le film. Enfin, je n'ai pas eu le temps de me mettre sur tout. Mais j'ai, là, la suite des bouquins, j'avais vraiment... Il y a des thèmes que j'aborde dedans. Je sais la fin, tu vois. Je sais comment l'histoire se termine, mais je me laisse de la liberté sur comment y arriver. Et c'est... Ah oui, le quatrième, cinquième et sixième, les lecteurs, ils vont en prendre plein les dents. Tu vas voir, ça va être... Déjà, le troisième, je me suis bien lâché. Mais alors là, le quatrième, cinquième, sixième, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Donc, courage, les amis.
D'accord. Ben, je propose de terminer avec la bande-annonce du film.
Oui, avec grand
plaisir. Voilà. Et puis après, on dira où te retrouver. Et puis, je crois qu'on pourra se laisser terminer l'émission à ce moment-là.
Même moi, en fait, je crois que j'arrive pas encore à réaliser pleinement ce qui s'est passé. Mais je l'ai vu, le Night Stalker, je l'ai vu de mes propres yeux, en chair et en os. Je l'ai vu comme...
Vous avez violence, quelle est la raison de votre appel?
Il y a un mec, il m'a agressé dans la rue, il a réussi à m'ouvrir. Je comprends pas ce qui s'est passé.
Calmez-vous et expliquez-moi.
Je suis sur place, la victime est sauve et l'auteur inconscient. La victime est choquée mais ne présente pas de blessure, elle aurait été secouée par l'inconnu.
Vous êtes captif?
Non, mon appel est capuche, 1m80 environ.
La municipalité nie avoir le moindre lien avec ce vigilant nommé Night Stalker. La police a toujours ordre de l'arrêter.
Je vous parle avec la capuche, le lointain en cuir, il était là.
Bah, chouette, 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 chouette. Et l'effet compliqué, c'est l'effet de fin qui redonne la silhouette.
Oui, j'ai pété.
J'imagine. Ça me rappelle mon époque de truqueur vidéo. j'ai fait plein de trucs comme ça.
Mais c'est horrible, je te jure. Et moi, je suis absolument pas pro là-dedans. Tu vois, j'apprends sur le tas. Hein. Je l'admets totalement. Mais ce truc-là, j'étais là, comment est-ce que je vais faire ça? Surtout que tu as le truc en tête et comment y arriver? J'ai regardé 50 000 tutos et finalement, j'y suis arrivé. Mais j'aime bien ce côté, tu vois, vraiment, finalement, c'est un événement et puis ça forme vraiment un tout, tu vois. Un événement retiré hors de son contexte n'a pas vraiment de sens et puis c'est finalement toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent et qui forment le personnage et qui forment sa légende, enfin son mythe, quoi.
Chouette. Bah, super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est le plus simple pour suivre les aventures du Night Stalker et tes aventures à toi?
Alors, moi, je conseille simplement sur Facebook le journal du Night Stalker, évidemment, hein, c'est le plus simple. Si vous avez envie, sur Instagram, c'est Natural City Channel, qui est, on a voulu faire un truc un peu méta, donc c'est le nom de la ville et c'est le journal de la ville, hein, Natural City Channel. Alors, les amis, j'ai vendu mon âme, je n'ai aucune peine à le dire. Nous sommes sur TikTok avec Natural City Channel. Et là, les amis, je fais un truc incroyable, je fais des chroniques vidéo. Oui, croyez-le ou non, hein, je trouve un petit peu le temps pour... j'ai inséré un principe, c'est un film et 5 arguments. Et du coup, je parle de films qui ont été complètement oubliés par l'histoire, genre Harley Davidson et Marlboro Man, qui pour moi reste un film incroyable et cher à mon cœur.
Je ne connais pas. J'ai presque envie d'ouvrir un compte TikTok rien que pour voir ça.
alors, je te conseille ce film, il faut le voir, parce que ce film est bourré de répliques cultes. Ma préférée, ça reste quand même un des personnages principaux. Son père est décédé pendant tout le film, il te dit toujours, et oui, c'est la dernière chose que mon père m'a dit avant de quitter ce monde pourri. Et il le répète mais pendant tout le film. Et le pitch, c'est très simple. Je te raconte le pitch après, je passe à autre chose. Mais le pitch, c'est deux amis d'enfance qui se retrouvent parce que le bar où ils ont grandi va fermer. et parce que le bar ne sait plus payer le bail. Et du coup, la meilleure idée qu'ils ont trouvée pour pouvoir payer le bail, c'est de braquer un convoi de banque et voler l'argent à la banque pour pouvoir payer la banque. Et malheureusement, ils se retrouvent dans un trafic de drogue où ils n'ont aucune emprise sur les événements. Et donc, ma femme a trouvé la définition, c'est un film de fille pour mec.
D'accord.
C'est excellent, je te le conseille. Donc, TikTok, Natural City Channel, Facebook, le journal du Night Stalker, on a un site www.
Natural City Channel,
avec un underscore, je crois, entre à chaque fois. Natural City et Channel, oui, underscore, entre. On a quoi d'autre? On a Facebook, le journal du Night Stalker, évidemment, mm-hmm. qui est le plus simple. Pour ceux qui aiment la rétro-ève, il y a NIAC, tout simplement. C'est NIAC officiel, si je ne dis pas de bêtises sur Facebook, mais vous tapez NIAC. Il y a le premier album en écoute sur YouTube, si ça tente des gens. C'est Néopandémonium, ils peuvent aller l'écouter sans trop de problèmes.
N'hésite pas à m'envoyer le lien parce que là je galère déjà à trouver les différents.
Attends, j'arrive, je vais t'aider. Je suis un homme incroyable pour t'aider là-dedans.
Incroyable, j'ai déjà trouvé le TikTok, hein, c'est déjà pas mal.
Hop, je vais t'envoyer ça, comme ça ce sera plus simple. Et là, oui, c'est l'album complet sorti en 2020. Je te le mets ici. Vous pouvez l'écouter, il est complet, il est entier sur YouTube. Et on a la chaîne YouTube qui est Natural City Channel aussi, tout simplement. Et c'est sur YouTube et sur Facebook que je suis le plus actif. TikTok, je poste une fois de temps en temps. Instagram, beaucoup moins parce que je fais de la musique, je fais de la vidéo et je trouve que c'est pas le réseau le plus adapté. Enfin, je trouve qu'Instagram, c'est plus des photos qu'autre chose. Par contre, ma femme y est hyper active avec son activité Katscrea, qui fait des bijoux. Elle est merveilleuse, j'en profite, je la passe comme ça. Artisane, incroyable, la plus merveilleuse. Et je crois que c'est déjà bien. Je crois que c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est déjà bien.
Oui, c'est déjà bien. Mais voilà, n'hésitez pas sur Natural City Channel, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Et le journal du Night Stalker sur Facebook. Voilà.
Ok, super. Quant à nous, nous, on se retrouve dans un mois, en fait, le 12 mars, on va enregistrer une émission, c'est un dimanche après-midi, vous pouvez vous installer avec un thé, prendre des petits gâteaux et venir nous écouter sur Twitch, où je vais recevoir Cédric qui bosse dans l'animation, et lui, il s'occupe de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les moteurs de rendu et comment... on arrive à faire un film avec tous ces ordinateurs derrière, les différents filtres, etc., tout ça. Et donc avec lui, on va discuter de comment on fait un film d'animation et puis aussi de ce que l'IA peut apporter dans ce travail-là, ce qu'il en pense, et voilà. Donc là, je sais qu'il vient de terminer un long-métrage et donc normalement, il est disponible le 12. Donc, venez nombreux. Je pense que ça va être une émission très intéressante. Voilà. Et sinon, je vous laisse avec la suite de la soirée sur Radio Panique. Merci, Steve, d'être venu autour des micros de Radio Panique et de Le Carnivore.
Et... Merci à toi. Tu es un homme extraordinaire. Je ne le dirai jamais assez. Tu es bien bon avec moi.
N'exagère pas. Et en tout cas, merci et à bientôt. Et portez-vous jusque-là. Portez-vous bien.